Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui sur Europe 1 dans son cher grand siècle. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le grand siècle, comme vous dites, ce 17e marqué par la figure de Louis XIV, ce siècle n'aurait pas été le même sans l'influence déterminante d'un courant de pensée que nous évoquons parfois sans prendre le temps de l'approfondir, le jansénisme.
Un jansénisme où se sont illustrées quelques grandes figures, Pascal, Racine...
Oui, ce sont les célébrités de Port-Royal, mais ils ont tendance à cacher tous les autres. Un très beau recueil des grands textes de Port-Royal a été publié par Flammarion sous la direction de Laurence Plaznay. Eh bien, Laurence Plaznay est avec nous dans cette émission. Et pour la fin de l'émission, j'ai aussi invité une grande romancière qui parle mieux que personne des grandes dames du XVIIe siècle. C'est Catherine Hermary-Vieille.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est un conseil que je vous donne, allez à Port-Royal. En pleine vallée de Chevreuse, pas loin du château de Dampierre, c'est un lieu où souffle l'esprit. Voici ce qu'Émile Henriot, au milieu du siècle dernier, disait de Port-Royal-des-Champs. De ce qui fut l'église, l'abbaye et le cimetière, il ne reste à peu près plus rien que quelques pierres délitées, un vieux pigeonnier, une cave et dans une petite chapelle, quelques reliques jansénistes. Mais le site est resté le même et pour tant de grands souvenirs, ce vallon témoin de pensées si hautes, si désintéressées, encore tout baigné de grâce, ça vous allez voir qu'il s'agit d'un jeu de mots, ce vallon a gardé dans son abandon même on ne sait quoi de détaché, de religieux, de spirituel, c'est un paysage pour l'âme. Étranglé par le rétrécissement de la vallée, perdu au milieu des coteaux modérés sans issue, ouvrant son étroite barrière aux promeneurs, le domaine des anciens solitaires jansénistes conserve encore aujourd'hui son aspect de retraite profonde, inaccessible, cet air retiré du siècle qui l'avait fait choisir pour leur thébaïde par tant d'esprits distingués, un peu sévères en leur définitif dégoût du monde. Entre la rivière est un affluent de l'Yvette, elle traverse le vallon dans sa longueur. Vous avez là des petits saules hein, qui protègent de leur feuillage toute cette espèce de petit vallon extrêmement accueillant, extrêmement loin du monde. Les hauts peupliers, nous dit Henriot, remuent dans l'air leurs branches frissonnantes au moindre vent et mêlées au chant des oiseaux, aux cris querelleurs des corneilles, aux murmure d'un ruisseau sur ses cailloux, cette vague rumeur des bois est le seul bruit qui vienne ici rompre le moment, rompre le silence inaltérable de ces lieux historiques. Historiques car une page importante de notre histoire s'y est écrite, une page que nous allons redécouvrir aujourd'hui. Dans ce site tranquille et silencieux, la nature n'est pas dépourvue de grâce. Pour qui s'est allé au-devant d'elle, une nature sans apprêt, bien propre à favoriser la rêverie de sa retirés, préoccupés de grands problèmes éternels et qui ne veulent pas être divertis de leurs religieuses méditations. Alors, qui sont-ils, ces sages? Évidemment Jean Racine, évidemment Pascal, dont je vous parlerai tout à l'heure, et puis Antoine Arnauld, la mère Angélique, le maître Sassy, et Amon, et Nicole, et Saint-Cyran, et Lancelot, les messieurs, les religieuses en robe de bure blanche, croisées de rouge. Ces ombres continuent aujourd'hui encore d'habiter Port-Royal, toujours rempli de leur pensée. Bien, c'est cette pensée, si révolutionnaire malgré elle, que je vous propose de découvrir maintenant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et jusqu'à 14h, Franck, vous consacrez votre émission à Port-Royal. On vous retrouve avec votre premier invité, il s'agit de Laurence Plaznay.
Bonjour Laurence Plaznay, vous connaissez très bien l'histoire de Port-Royal. Vous êtes maître de conférence en littérature française à l'Université Paris-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Alors, il faut que nous revenions, si vous voulez, aux origines de Port-Royal. Parce que j'ai parlé de la fin, il faut peut-être d'abord raconter le début. Tout ça remonte assez haut, finalement, dans le temps.
Oui, tout à fait. Port-Royal a été fondé au XIIIe siècle, en 1204. À l'origine, il s'agit d'un petit couvent qui obéit à la règle de Saint-Benoît, donc qui est situé dans la vallée de Chevreuse.
C'est le site de l'actuel Port-Royal des Champs. Hein,
c'est tout à fait ça, voilà, exactement. À quelques kilomètres de ce qui sera plus tard Versailles, bien sûr, mais qui n'existe pas à cette époque. Et c'est un couvent de femmes qui comporte une dizaine, douzaine de religieuses. Un couvent qui n'aura aucun éclat particulier.
C'est ça qui est fascinant, c'est que les premiers siècles, c'est un de ces milliers de couvents qui parsèment la France de l'époque et qui n'a aucune histoire particulière. Il va falloir l'intervention de personnalités très, très fortes pour que tout ça change. Mais c'est, alors là, beaucoup plus tard, c'est au tournant du XVIIe siècle.
Oui, c'est ça. En fait, l'histoire change vraiment à la fin du XVIe siècle, lorsqu'une petite fille, Jacqueline Arnaud, est nommée abbesse de Port-Royal.
Vous dites petite fille, elle est vraiment toute petite, elle a 8
ans.
Ah
oui, elle a 8 ans. Oui. Elle est née en 1591 et en 1599, son grand-père s'arrange pour que l'enfant puisse devenir abbesse lorsque l'abbesse régnante à ce moment-là va décéder. Et la petite fille n'a aucune vocation. C'est cela qui, d'autre part, est intéressant. Pendant des années, elle lit plus tard qu'elle aime aller se promener dans les champs.
Elle est très libre, finalement.
Elle est extrêmement libre. Elle déteste l'idée de la vocation à laquelle on la contraint, de telle sorte qu'elle raconte à un moment qu'elle imagine s'enfuir pour se rendre à La Rochelle, où une partie de sa famille est protestante, et pouvoir se marier.
Et donc, c'est une révoltée. Elle a un caractère, une énergie extraordinaire. En même temps, elle n'est pas très jolie. C'est peut-être la raison pour laquelle on l'a...
Alors, on n'a aucun document, c'est ce que je dis souvent. Alors déjà, c'est la quatrième enfant des parents. C'est la deuxième fille. Il est vraisemblable qu'elle n'est pas très jolie. Donc, on choisit d'assurer son futur en la mettant dans un établissement religieux. C'est une pratique tout à fait banale à cette période. Peut-être moins banale, l'insoumission dont elle fait preuve pendant longtemps, et puis brutalement tout va changer en 1608.
Avant cela, elle a dû renouveler ses vœux. Et ça, on lui a forcé la main, on a profité d'un état de faiblesse. Hein. Elle a environ 15 ans à ce moment-là.
Oui, voilà. Alors, à un moment donné, elle est malade d'ailleurs, et son père va profiter de sa faiblesse et d'un séjour qu'elle accomplit chez ses parents pour lui faire signer un papier dont elle ne lit pas le contenu. Et elle s'aperçoit plus tard que son père l'a forcé à signer et qu'elle est définitivement engagée en religion. Mais dès qu'elle quitte le domicile des parents et qu'elle rentre à Port-Royal-des-Champs, elle va se trouver entendre le prêche d'un capucin et subitement
c'est la révélation
absolue, ce qu'on appelle au XVIIe siècle une conversion, c'est-à-dire le passage d'une pratique qui est une pratique rituelle, formelle de la religion à une pratique ardente et soutenue par une foi très vive.
C'est ça, cette foi incandescente. Ce personnage dont nous parlons depuis quelques minutes, c'est Mère Angélique Arnaud.
Hein, voilà, c'est la grande fondatrice. Mère Angélique.
Oui. C'est celle par laquelle Port-Royal va devenir célèbre dans l'Europe entière. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, bien entendu. Il faut peut-être réinscrire tout ça dans le contexte de ce qu'on appelait autrefois la contre-réforme, qu'on appelle aujourd'hui la réforme catholique.
Oui. Alors, effectivement, tout à l'heure, vous disiez que c'était un destin surprenant. Je pensais en moi-même que c'était un destin qui s'inscrivait dans une période très particulière, dans ce que l'on appelle le XVIIe siècle aussi, le siècle des saints ou le siècle de Saint-Augustin, ce qui est fort paradoxal quand on a tendance à nous parler plutôt de Louis XIV. C'est effectivement un moment où le christianisme, le catholicisme, est en pleine refondation après le Concile de Trente qui s'est clos dans les années 1560. Donc, véritablement, on assiste à un mouvement qui est un mouvement de mission, de pastorale, où les âmes sont touchées, travaillées d'une façon beaucoup plus puissante que ça n'a été le cas auparavant.
Alors, tout à l'heure, on va parler de cette opposition qui fait un peu peur, comme ça, dans les termes, entre jansénisme...
Mais ça, c'est la faute des jésuites, parce que les jansénistes n'existent pas.
En tout cas, on va quand même parler de l'abbé de Saint-Cyran, de Jansénius, de l'augustinisme et du molinisme. Bon, alors ça fait, quand on dit tous ces termes, on se dit oh là là là, ça va être très compliqué. Vous allez voir qu'en fait, c'est relativement simple lorsqu'on va à l'essentiel. Mais avant,
avant cette dimension purement théologique, il y a bien la prise en main de ce couvent par cette jeune mère supérieure, avec notamment la journée des guichets, faut raconter ça, hein, la fermeture de Port-Royal d'abord.
Oui, progressivement, elle va rétablir la règle dans son couvent, qui n'était plus observée à la fin du XVIe siècle.
Oui, tout ça c'était un peu relâché, mais
tout
c'était
partout relâché,
comme ça.
Hein. Oui, bien sûr, Port-Royal n'a même pas été un couvent particulièrement scandaleux à cette période. Et donc, elle rétablit la règle, mais elle rétablit l'étroite observance, c'est-à-dire l'interprétation la plus rigoureuse de la règle de Saint-Benoît. Et plusieurs étapes sont marquées, l'abstinence de viande et notamment la clôture, à savoir que des profanes ne pourront pas entrer à l'intérieur du couvent. Alors, il y a une journée qui est restée dans les annales parce qu'elle a valeur de symbole, c'est le 25 septembre 1609.
C'est ce qu'on appelle la journée du guichet.
La journée du guichet, où Angélique interdit à ses parents qui se rendent à Port-Royal des Champs de pénétrer dans l'abbaye davantage. Alors les parents sont outrés, il y a une très violente dispute parce qu'elle n'est pas la seule à avoir un fort tempérament dans la famille. Donc le père crie, tempête, le fils aîné encore plus. La jeune femme s'évanouit, elle va rencontrer son père un petit peu plus tard au parloir et les choses s'apaiseront. Mais elle mettra plusieurs mois avant de revoir sa mère.
Elle est très proche de son père. Elle a toujours été plus en difficulté avec sa mère, semble-t-il.
Apparemment, elle a soupçonné que sa mère ne l'aimait pas pendant de très nombreuses années. Mais il est très difficile d'essayer de psychanalyser des hommes et des femmes du XVIIe siècle.
Évidemment.
C'est très anachronique d'employer des concepts qui n'existaient pas pour parler d'eux.
Bien entendu. Alors, combien sont-elles les religieuses à ce moment-là?
Alors, à l'origine, elles étaient une douzaine de religieuses. Oui. Le nombre des religieuses va très vite croître avec la réputation du couvent, puisque dès les années 40, elles sont 80-90 religieuses. Et le couvent va monter en puissance jusqu'à atteindre 111 religieuses en 1661.
Et il va devenir un modèle, en quelque sorte. Il va faire école, à tous les sens du mot.
Il fait complètement école. Entre les années 1620 et 1640, plusieurs religieuses de Port-Royal sont invitées à se rendre dans des abbayes de France pour organiser leurs réformes, leurs clôtures, pour aider ces communautés à retrouver elles-mêmes le sens de la foi.
On l'a bien compris, à partir de cette conversion de Mère Angélique Arnaud et à partir du moment où elle décide de faire de son couvent un lieu de foi ardente, eh bien c'est un véritable modèle qui va se répandre. On y vient dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Avec une émission consacrée aujourd'hui à Port-Royal, Franck.
Et nous sommes toujours en compagnie de Laurence Plaznay pour parler de ce couvent de Port-Royal. Alors, on a bien compris qu'au départ, on est à Port-Royal-des-Champs. Il faut préciser, parce que quand on dit Port-Royal, notamment à des Parisiens ou des habitants de la région parisienne, eux pensent à un quartier de Paris. Hein. On est plutôt dans
la
rive gauche.
On va avoir un couvent à deux têtes assez
voilà,
rapidement.
Ça.
Au cours des années 1625, Port-Royal-des-Champs est un endroit marécageux à cet endroit-là, à ce moment. Insalubre.
Un peu insalubre, voilà.
La communauté est trop importante pour les locaux qui existent. Donc la mère d'Angélique Arnaud va acheter l'hôtel de Clagny, qui se situe rue de la Bourbe, là où est l'actuel Port-Royal de Paris, où s'est installée la maternité.
Voilà.
Et elle va transférer, les religieuses obtiennent le droit de se transférer à Paris. Entre-temps, le couvent de Port-Royal-des-Champs va être habité par les solitaires dont nous n'avons pas encore parlé.
Il faut dire qu'il n'y a pas que des femmes dans cette affaire. Il faut raconter. Qui sont ces solitaires?
En 1638, un neveu d'Angélique Arnaud, Antoine Lemaître, qui est un grand avocat du barreau et un espoir politique en France, décide de renoncer à tout pour mener la vie d'un ermite, mais sans entrer dans aucun ordre. Et il va s'installer dans une maison à proximité du couvent de Paris où sont alors installés les religieuses. Et il est très rapidement rejoint par des frères, par des cousins, puis par des hommes qui n'appartiennent pas à la famille Arnaud directement.
Qui entourent le couvent, en quelque sorte.
Alors, qui se trouve auprès du couvent.
Auprès du couvent, voilà.
Et c'est absolument capital parce que c'est un moyen de diffusion dans la société, des idées, des modèles.
Eux ont des liens avec la société, évidemment.
Eux ont beaucoup de liens, même s'ils les tranchent puisqu'ils prétendent être des solitaires. Néanmoins, ils écrivent beaucoup, ils conservent des liens avec les hommes avec lesquels ils ont travaillé. Donc, ils sont des modèles. Et Port-Royal irradie la société française à partir des religieuses qui reçoivent, par exemple, des pensionnaires, qui peuvent diriger des grandes dames, et puis grâce à ces solitaires. Et la troisième institution capitale de Port-Royal, ce sont les petites écoles.
Alors voilà.
À savoir une poignée d'enfants qui vont être élevés justement par quelques-uns des solitaires.
Est-ce que le fait que les nonnes de Port-Royal se lancent dans l'éducation ne va...
Alors ce ne sont pas les nonnes.
Ce sont les solitaires.
Ce sont les solitaires. D'accord. Les nonnes élèvent les petites filles qu'on leur confie, donc des petites pensionnaires. Et on a un admirable règlement pour les enfants qui a été écrit par Jacqueline Pascal, la sœur de Blaise Pascal, l'auteur des Pensées. Mais là, c'est quelque chose de très particulier qui reste dans les murs de l'abbaye. Donc, qui est relativement secret. Enfin, ce qui est important parce
que
ces pensionnaires.
Écoles, elles sont diffusées, elles, en revanche. Hein.
Voilà, les pensionnaires, je termine là-dessus, sont des jeunes filles. Certaines vont entrer au couvent, d'autres vont devenir des grandes dames et irriguer, là encore, la vie spirituelle française par leur exemple. Mais ce sont des femmes, donc leur destin est beaucoup plus voilé que celui des hommes au XVIIe siècle. Les petites écoles, en revanche, vont former Racine, le nain de Timon, qui est un des plus grands historiens français, le Bois Guilbert, qui est un des premiers économistes, etc. Donc là, c'est différent. Ces hommes-là, par le rôle qu'ils joueront dans la société, vont avoir un rayonnement tout à fait exceptionnel.
Et ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que c'est à l'origine de la haine des jésuites contre eux. Il y a une concurrence, là, sans doute.
C'est une des raisons. Raison principale est théologique. Mais c'est une des raisons essentielles. Les jésuites règnent en maître sur l'enseignement à cette période. Et le succès exceptionnel des petites écoles, l'extraordinaire modernité des méthodes qui y sont appliquées, fait que les jésuites ont peur que les petites écoles soient un vrai succès, qu'on en crée davantage et que cela vienne concurrencer leurs propres établissements.
Alors on a beaucoup parlé de mère Angélique Arnaud, on n'a pas dit que sa petite sœur est là aussi, la douce mère Agnès. C'est important parce qu'à elles deux, elles ont des tempéraments tellement complémentaires qu'elles vont pouvoir, elles vont balayer, si je puis dire, tout le spectre.
Oui, la mère Agnès avait été nommée dans un ordre bénédictin très très jeune. Elle a toujours eu la foi et elle rejoint Port-Royal et sa sœur au moment de la réforme. Donc elles vont travailler toutes les deux main dans la main pour la grandeur du couvent. La mère Agnès est effectivement beaucoup plus portée sur les questions spirituelles, le mysticisme. Elle est plus affable, ce qui fait qu'en général, elle est plus goûtée par les grandes dames dont elle comprend mieux les difficultés à appliquer les principes qu'on leur prêche que la mère Angélique, qui est vraiment une d'homme, j'allais dire. Alors, elle n'a pas d'homme sous la main, mais c'est un caractère très fort. C'est une redoutable administratrice et c'est un personnage qui fait un petit peu peur.
Alors, si vous voulez, Laurence Plaznay, on va laisser nos auditeurs digérer ce que vous venez de leur dire. On va revenir, évidemment, sur tout ça. Je vous propose de décaler notre petit récit et on se retrouve donc dans un instant pour continuer sur cette histoire de jansénisme et sur toutes les persécutions qui vont pleuvoir sur la tête des pauvres religieuses de Port-Royal.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
En compagnie de vos invités, cher Franck, sur Europe 1, nous sommes toujours avec Laurence Plaznay et Catherine Hermarie-Vieille nous a rejoint.
Catherine Hermarie-Vieille nous a rejoint. Bonjour Catherine, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur d'un roman qui s'appelle Le siècle de Dieu. Alors on essaiera d'élucider tout à l'heure ce titre. Et alors il y a un bandeau sur la couverture qui dit le grand roman du règne de Louis XIV, mais c'est le grand roman du règne religieux de Louis XIV en quelque sorte. On s'inscrit exactement dans toute cette histoire.
Et là effectivement on a un fil directeur. Avec ce que madame vient de nous raconter d'une façon aussi passionnante, c'est qu'effectivement, moi, je vais remonter aussi au molinisme, avec le quiétisme, au jansénisme, à la persécution des protestants. Donc, cette intolérance religieuse de Louis XIV qui impose envers et contre tout le catholicisme gallican.
Voilà, alors on va y venir justement. Revenons peut-être sur cette histoire de jansénisme. Comment se fait-il que Port-Royal devienne en quelque sorte le point d'ancrage de cette doctrine en France?
Port-Royal ne devient pas le point d'ancrage de cette doctrine. Cette doctrine est la doctrine millénaire de l'Église. Elle est la doctrine de l'Église gallicane en particulier.
Gallicane, donc de l'Église de France.
Port-Royal incarne la tradition chrétienne et catholique. Ceci dit, depuis le XVIe siècle, sont apparus les jésuites qui répandent une théorie qu'on appelle du nom de l'un de leurs penseurs, Molina, le molinisme. Molina, oui. Et le molinisme consiste à dire que l'homme a plus de pouvoir sur son destin, dispose d'un libre arbitre supérieur à celui que lui prêtent les augustiniens. C'est un discours qui va dans l'air du temps, puisque c'est un discours de la facilité, à l'inverse du discours très rude de saint Augustin sur une grâce donnée à quelques individus de manière arbitraire par Dieu. C'est aussi un discours qui a pour vocation de mieux marquer la différence avec les protestants, lesquels ont accompli les premiers un retour strict à la pensée de saint Augustin.
Alors, évidemment, on peut imaginer que dans un État qui est en train de vouloir couper toutes les têtes qui dépassent, hein, c'est la prise de pouvoir de Louis XIV en 1661, on est dans une période de très grande ordonnancement dans tous les domaines, d'ailleurs dans tous les secteurs de l'activité. Dans le monde, dans le domaine de la religion, tout ce qui se distingue du lot commun est mal vu par l'État.
Je pense que ce n'est pas en ces termes-là que la question se pose à ce moment-là. La question se pose sur des problèmes très précis. Par exemple, la critique qui a pu être faite de la politique de Mazarin, de la politique étrangère de Mazarin, par Saint-Cyran dont on parlait tout à l'heure, qui condamne l'alliance avec des princes protestants. Et là, c'est de la réelle politique qui était menée par le pouvoir. Et ça, c'est un premier sujet d'affrontement fort entre le pouvoir et les Augustiniens, lesquels disent non, c'est immoral du point de vue d'un chrétien de s'allier avec des protestants. Deuxième pierre d'achoppement vitale au cours de ces années, la question de la confession. Louis XIII a bien avant Louis XIV, puisque la partie s'engage avant la mort de Louis XIII. Louis XIII est un roi très scrupuleux et la question est de savoir comment il doit s'attrister ou se contrister à la fin d'une confession. Comment est-ce que le roi peut aborder la pénitence? Et là encore, il y a une divergence très forte entre Saint-Cyran et le confesseur du roi et les jésuites qui se trouvent autour de lui.
Mais l'entrée en résistance de Port-Royal en tant que telle se fait par le refus de signature. Alors, il faut que vous nous disiez ce que sont les fameuses 5 propositions de l'Assemblée du clergé.
Alors, entre-temps, en 1638, Jean Sénius, qui a été un camarade d'études de Saint-Cyran, d'où le lien entre les deux hommes, publie un ouvrage qu'on connaît comme l'Augustinus. L'Augustinus est une somme, une espèce de centon, une marqueterie de citations de Saint-Augustin qui entend revenir à la pureté de la pensée augustinienne, débarrasser toutes les gloses et exégèses du Moyen-Âge. Cet ouvrage pose effectivement un certain nombre de problèmes quand on voit ce qu'est en train de devenir la théologie sous l'influence du molinisme. À partir de là, va se mettre en place une campagne de la part des jésuites, disons-le assez largement, pour faire condamner un certain nombre de propositions de ce texte comme hérétiques. Alors c'est quelque chose qui est long parce que le livre est publié en 1638. Les premières condamnations, et notamment la bulle cum occasione, datent de 1653. Et le feu aux poudres commence à ce moment-là, notamment pour nous. On rejoint l'histoire littéraire lorsque le vicaire de Saint-Sulpice refuse la confession au duc de Liancourt, qui est un de ses paroissiens, et que cet événement va provoquer la publication des provinciales. Les provinciales, donc c'est Pascal et les messieurs de Port-Royal qui écrivent 18 petites lettres extraordinaires qui sont en français, qui sont brillantes, intelligentes, et c'est la première fois qu'on...
C'est un petit manifeste, en quelque sorte.
Oui, mais surtout, on en appelle à l'opinion publique. Il n'existe pas encore véritablement de médias, mais c'est la première fois qu'on utilise l'opinion publique dans une lutte avec le pouvoir. Et ce sont les Augustiniens, et c'est Port-Royal qui gagne. De sorte que pendant quelques années, ils vont avoir la paix, tout recommence à nouveau vers les années 60, où cette fois-ci on décide de faire signer à tous les ecclésiastiques et les religieuses de France un formulaire condamnant les fameuses 5 propositions. Les religieuses de Port-Royal vont s'y refuser avec une extraordinaire ténacité, puisque ça va durer plusieurs années, qu'une poignée d'entre elles va être même exilée de leur couvent et emprisonnée dans des couvents parisiens, chacune d'entre elles seule, soumise à une pression incroyable pour les faire signer, et que majoritairement, elles refuseront.
Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Place au récit de Franck Ferrand avec maintenant un personnage à jamais associé à Port-Royal. Il s'agit de Pascal.
Parmi les fantômes de Port-Royal, un personnage célèbre occupe une place à part, disons-le. C'est le grand philosophe Pascal. On se penche souvent sur le cas de Jean Racine, sur le cas du tragédien dont on connaît bien les liens avec le jansénisme et avec Port-Royal. C'est moins vrai pour ce qui est de Pascal, dont il n'est pas interdit pourtant de se demander ce qu'il serait devenu sans l'influence de Port-Royal. Pascal, eût-il été Pascal sans Port-Royal, demandait Jacques de Bourbon-Busset il y a une cinquantaine d'années. Alors évidemment, Pascal aurait sans doute été néanmoins un personnage connu et même célèbre. Il aurait fait cette grande carrière que l'on connaît dans le domaine des sciences. C'était un enfant prodige. Il ne faut pas oublier qu'à l'âge de 12 ans, il avait su reconstituer les 32 propositions d'Euclide à l'aide de ce qu'il appelait des barres et des ronds. Il ne pouvait évidemment, ce Pascal, que devenir un des grands mathématiciens de tous les temps. Mais les provinciales, demande Jacques de Bourbon-Busset, mais les pensées. La conversion de Pascal n'a pas eu le caractère foudroyant qu'on lui prête d'habitude. L'accident de voiture du pont de Neuilly n'a été à proprement parler qu'un incident. Et oui, parce qu'on dit que Pascal, bousculé en quelque sorte par ce qui lui était arrivé, avait d'un seul coup trouvé la foi et trouvé la lumière. Cet incident, nous dit Bourbon-Busset, a joué le rôle de catalyseur, mais la grâce travaillait déjà celui qui, plus tard, a su en trait fulgurant décrire son action. Et là, je cite Pascal, « Le moindre mouvement importe à toute la nature. La mer entière change pour une pierre. Ainsi, dans la grâce, la moindre action importe par ses suites à tout. » Vous savez que la sœur, enfin l'une des deux sœurs de Pascal, Madame Perrier, a écrit une sorte de biographie, en tout cas un récit de la vie de Blaise Pascal. Il était tout jeune, hein, il n'avait pas 24 ans quand, nous dit sa sœur, la providence de Dieu ayant fait naître une occasion qui l'obligea de lire des écrits de piété, Dieu l'éclaira de telle sorte par cette sainte lecture qu'il comprit parfaitement que la religion chrétienne nous oblige à ne vivre que pour Dieu. Dieu et à n'avoir point d'autre objet que lui. Alors quelle est-elle cette fameuse occasion qui devait décider de la vocation de Pascal ? Eh bien, il faut savoir que son père, qui vivait à Rouen, a fait une chute, qu'il a été soigné à domicile par deux chirurgiens, les frères Deschamps. Ces deux chirurgiens étaient eux-mêmes des disciples de Saint-Cyran, dont nous avons parlé, hein, de ce théologien Saint-Cyran. Ils ont eu l'occasion de parler pas mal avec Blaise, qui encore une fois était le petit génie, hein, l'enfant prodige que vous savez. Et Blaise, à partir de là, a été convaincu et il a lui-même convaincu son père, ses deux sœurs et même son beau-frère Perrier. Pascal n'en continue pas moins ses travaux scientifiques, ses publications, etc. Pascal, d'une façon générale, n'a jamais cessé de travailler, de chercher, de raffiner ses travaux. Mais à partir de 1655, il entre à Port-Royal pour y faire une retraite. Son directeur de conscience l'a envoyé à Port-Royal des Champs, je cite toujours la sœur de Pascal, comme en un lieu de gymnastique et de diète, où M. Arnaud lui prêterait le collet pour les sciences humaines et où M. de Sacy lui apprendrait à les mépriser. C'est vrai qu'il y a en quelque sorte cette double influence de Sacy et d'Arnaud sur la pensée de Pascal. Pascal qui va néanmoins, bien que, j'allais dire illuminé, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut employer, mais bien que extrêmement versé dans cette piété ardente et même incandescente, Pascal va conserver toute sa liberté d'esprit. Simplement, et c'est un des traits de caractère du personnage, il est assez impatient. Quand il pense voir juste, il a du mal à tolérer que les autres ne voient pas comme lui. On va s'en apercevoir notamment en janvier 1656 lors de la première provinciale. Qu'est-ce que c'est que cette première provinciale ? Ça a l'air comme ça, dit comme ça, ça a l'air d'un véritable cours de philo. En fait, cette première provinciale, c'est une sorte de discours. Au départ, c'était le grand Arnaud lui-même qui devait prononcer ce discours afin d'éclairer le public sur les querelles de Sorbonne au sujet de la grâce, hein, toujours ce grand sujet de la grâce qui animait littéralement la pensée janséniste. Sauf que M. Arnaud avait écrit son texte, qu'il l'a lu devant un certain nombre des solitaires de Port-Royal et que tout le monde s'est dit que c'était pas très bien écrit, que c'était pas très intéressant. Alors, à ce moment-là, Arnaud s'est tourné vers Pascal, il lui a dit « Mais vous qui êtes jeune et qui êtes un bel esprit, vous devriez faire quelque chose. » Et Pascal a donc accepté la commande d'Arnaud et il s'est mis à écrire. Et il a évidemment écrit là un très grand texte, hein, « Les provinciales, c'est majeur, ça va l'imposer comme un des grands écrivains de son temps. » Voici ce que Voltaire, on peut quand même pas accuser Voltaire d'être favorable au christianisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Voici ce que Voltaire, un siècle après, écrivait à propos des provinciales. « Le premier livre de génie qu'on vit en prose fut le recueil « Les lettres provinciales ». Toutes les sortes d'éloquences y sont renfermées. Il n'y a pas un seul mot qui, depuis 100 ans, se soit ressenti du changement qui altère souvent les langues vivantes. Il faut rapporter à cet ouvrage l'époque de la fixation du langage. » Voilà ce que disait Voltaire, et c'est vrai que c'est un très grand texte, les provinciales. Alors, il faut imaginer Pascal à Port-Royal, hein, dans ce qui va être le décor de sa véritable aventure intérieure. Il y a un épisode très émouvant dans le passage de Pascal à Port-Royal, c'est cette dispute qu'il a, cette dispute au sens philosophique avec sa petite sœur Jacqueline, sœur Sainte-Euphémie à Port-Royal. Jacqueline, entre parenthèses, à qui il avait quand même voulu refuser sa part d'héritage au moment où elle était entrée au couvent. Jacqueline était une âme entière, farouche, une janséniste très très poussée qui ne comprenait pas qu'on cherche à négocier avec Rome et avec l'Église. Elle ne comprenait pas qu'on puisse, disait-elle, ne pas avoir le courage de s'exposer à souffrir quand ce devrait être la mort même pour la confesser hautement. Et du reste, elle va mourir à 36 ans de foi incandescente, si je puis dire. Pascal, à partir de la mort de sa sœur, va lui-même se transformer. Il va lui-même devenir beaucoup plus intransigeant. Et quand il se voit mis en minorité au sein de Port-Royal par ceux qui voudraient justement négocier avec Rome, il tombe dans une sorte de catalepsie. Il va même, pendant tout un moment, y perdre le langage. Voyez que le frère comme la sœur sont des personnages très entiers, qu'ils vivent pleinement leur passion religieuse. L'autre grand événement de cette vie pascalienne à Port-Royal, ça a lieu en 1657. La nièce de Pascal, donc Marguerite Perrier, hein, la fille de celle qui écrivait la vie de Pascal, souffrait de graves problèmes oculaires. Elle avait une fistule oculaire et d'un seul coup, elle a été guérie. Et ça a été vécu comme un miracle extraordinaire pour celui qui était son parrain d'ailleurs, car Pascal était le parrain de cette jeune fille qui d'un seul coup est guérie. La joie qu'il en eut fut si grande qu'il en était tout pénétré, écrire à sa sœur, et comme son esprit ne s'occupait jamais de rien sans beaucoup de réflexion, il lui vint à l'occasion de ce miracle particulier plusieurs pensées très importantes sur les miracles en général, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Et ça va être le départ du grand œuvre de Pascal, des célèbres pensées de Pascal. Le jeune homme se convertit progressivement en prenant ses distances avec son œuvre scientifique, raconte Laurence Plaznay dans son recueil de textes sur Port-Royal, un recueil dans lequel évidemment une belle place est réservée à l'œuvre de Pascal. L'entrée de sa sœur Jacqueline à Port-Royal, le miracle qui guérit sa nièce et filleule Marguerite Perrier d'une terrible fistule lacrymale, le convainquirent de composer, après le succès éclatant des provinciales, une apologie de la religion chrétienne que l'épuisement puis la mort l'empêchèrent d'achever. L'ouvrage, publié sous une forme fragmentaire en 1669, de façon posthume, devait se révéler le chef-d'œuvre de l'augustinisme défendu par Port-Royal. Ce sont les pensées, les célèbres pensées de Pascal qui, vous l'aurez compris, doivent tout à Port-Royal.
Extrait sur Europe 1 du deuxième concert royal Air contre Fuguet, signé François Couperin. A tout de suite, juste après ça, pour la suite d'une émission consacrée, vous l'avez compris et vous le savez, à Port-Royal.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, nous sommes précisément au cœur de l'histoire de Port-Royal, Franck.
Et nous sommes au cœur de cette histoire que nous venons de revivre, celle de Port-Royal, dans Le siècle de Dieu, le dernier roman de Catherine Hermarie-Vieille. Alors Catherine, il faut dire que, évidemment, votre roman n'est pas du tout théologique, lui. Hein. On suit des personnages. Il faut que vous nous les racontiez, nous les présentiez d'ailleurs.
Oui, absolument. J'ai voulu créer, ce qui n'est pas mon habitude, parce que généralement je m'attache aux personnages strictement historiques. Mais là, étant donné le foisonnement de ce siècle, il fallait des regards très différent sur à la fois le monde brillant, le côté soleil de la cour, avec la construction, l'aménagement, on peut dire, de Versailles, l'installation de la cour à Versailles, les salons littéraires, Mademoiselle de Scudéry, Ninon de l'Enclos, et puis aussi justement...
C'est d'ailleurs le premier Versailles, hein. C'est un Versailles qui n'existe plus du tout aujourd'hui, il faut le dire, hein, qui a été complètement balayé dans les années 1670 pour la construction, avec la construction du nouveau Versailles où va s'installer la cour en 1682. Mais Mademoiselle de Scudéry, l'arrivée de votre votre héroïne et tout ça se fait dans un Versailles qui était l'espèce de pavillon de plaisir de Louis XIV, un endroit...
Pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'on imagine souvent pas que le roi s'est installé, comme on l'entend maintenant à Versailles avec sa cour, finalement tardivement, parce qu'il était surtout entre les Tuileries et Saint-Germain. Beaucoup de fêtes avaient lieu à Saint-Germain. Et puis, on voit tout de suite Louis XIV à Versailles. Mais non, pas du tout. Ça n'est pas du tout le cas. Donc, il y a donc une partie du récit qui s'intéressera à cette vie plus connue d'ailleurs, qu'on peut être trop connue du siècle de Louis XIV. Et j'ai voulu absolument qu'une autre partie du récit ait un regard très différent justement sur ce foisonnement religieux dont le quiétisme avec Madame Guyon et Fénelon.
Voilà un nom qu'on n'a pas cité, bien sûr.
Qui a aussi une lutte âpre et acharnée contre Bossuet. Et c'est vrai que ce siècle de Dieu, ce siècle de Louis XIV, qui se prend lui-même un peu pour Dieu, est extrêmement... Je pense que les Français ne pouvaient pas s'exprimer beaucoup au niveau politique ou au niveau de l'organisation sociale du pays. Tout ça, c'était absolument dominé par le roi. Donc, il y a cet extraordinaire foisonnement qu'on ne retrouve pas sous le règne de Louis XV.
Il faut dire un mot de cette Madame Guyon, qui est un personnage tout à fait extraordinaire.
Oui, c'est un personnage hors du commun. Une femme à la fois très humble, qui a eu une enfance très difficile, qui est partie aux confins de la Suisse pour convertir les jeunes filles protestantes, et puis qui est revenue, elle avait des relations importantes, la fille d'un premier mariage de Fouquet, qui est une de ses amies intimes. D'ailleurs, la fille de Madame Guyon épousera le fils de Fouquet, le comte de Vaud, et s'installera donc dans le château de Vaud. Et puis ce réseau de grandes dames, comme la duchesse de Chevreuse, les ducs et duchesses de Beauvilliers, qui sont les filles de Colbert, qui ont un rôle religieux très important, et qui vont fonder ce qu'on appellera la petite église, dont Madame de Maintenon va faire partie, avant de se retourner brutalement.
Mais alors, c'est fascinant, parce que vous nous montrez une Madame de Maintenon qui est totalement victime de ses propres ambitions, en quelque sorte. Elle va renier ce qu'elle a adoré, d'une certaine façon.
Bah, c'est une femme qui s'est battue bec et ongles pour arriver là où elle est arrivée. La vie n'a pas été facile pour elle.
Là où elle est arrivée, c'est-à-dire épouse du roi
de France, épouse morganatique. Sa place à Versailles. Oui. Et ça, il n'est pas question pour elle, même avec aucun sentiment amical, aussi profond soit-il, qu'elle remette en jeu cette position qu'elle occupe à Versailles. Et elle abandonnera successivement Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne, qui a été très proche d'elle. Elle abandonnera Madame Guyon, qui a enseigné à Saint-Cyr et qui ira 7 ans à la Bastille. Et elle tournera le dos à ceux qui peuvent lui nuire, parce que ce qu'elle veut, c'est rester en place. Et Madame de Montespan aussi, qui a été quand même sa protectrice, et qu'elle abandonnera complètement.
Et oui, et dans quelles conditions?
Oui.
Alors, on voit tout ça, vous parlez de Fénelon, il y a ce duel également entre Bossuet et Fénelon, puisque c'est qui incarne peut-être d'ailleurs à la quintessence le grand débat religieux de ce siècle.
Oui, la quintessence, oui. Un débat que je pourrais qualifier d'homérique, parce qu'ils vont publier un nombre incroyable de livres pour se contredire l'un l'autre, montrer l'un, Fénelon, que le mysticisme a toujours été accepté finalement par l'Église et que des grands mystiques sont devenus des saints, alors que Bossuet, lui, est tout à fait opposé à cette expression mystique. C'est pas du tout dans l'esprit de l'aigle de Meaux. Et puis Bossuet, c'est quand même le bras droit du roi.
Pourquoi le siècle de Dieu?
Parce que justement, on parle beaucoup de Dieu dans ce siècle. Dieu sous de multiples engagements personnels, de multiples passions. Et puis bien sûr, je vais me pencher aussi sur l'abrogation de l'édit de Nantes et le sort terrible des protestants avec les dragonnades, des protestants envoyés aux galères alors que leur seul tort avait été d'être protestants. Et la vie des protestants aux galères était abominable. Il a fallu l'intervention de souverains protestants européens, des interventions multiples et pressantes pour que Louis XIV accepte de libérer certains galériens protestants. Donc ça, c'est effectivement l'autre volet de mon livre. Et puis alors la pauvreté, les filles de la charité, qui elles, contrairement aux religieuses cloîtrées, pensent que Dieu, Jésus, a toujours voulu que l'on porte secours à son prochain, que ça, c'est la priorité absolue. Nourrir l'affamé, abreuver celui qui a soif, visiter le prisonnier et soigner le malade. Et que tout le reste... C'est un peu des tergiversations intellectuelles. Et donc, un des personnages va s'engager très profondément dans l'œuvre des filles de la charité.
Catherine Hermarie-Vieille, Le siècle de Dieu, c'est un roman qui est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Et je vous rappelle donc cette anthologie présentée par Laurence Plaznay, Port-Royal, c'est chez Flammarion. Merci à toutes les deux.
Merci.